France Culture.
Il est midi et demi sur France Culture, le journal de la rédaction vous est présenté par Thomas Cluzel.
Bonjour à toutes et à tous. Le compte à rebours est lancé avant les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 qui se tiendront dans les Alpes françaises. Un comité interministériel se réunit aujourd'hui, présidé par le chef du gouvernement, détaillera la liste des très nombreux défis à relever. François Bayrou espère un accord entre partenaires sociaux sur les retraites à la mi-juillet. Les syndicats, eux, sont furieux. C'est une illustration supplémentaire de ces restrictions budgétaires qui désormais mettent en péril l'avenir de la création artistique. L'école supérieure d'art et de design de Valenciennes, fondée en 1782, va fermer ses portes aujourd'hui. On reviendra sur la disparition du compositeur légendaire Lalo Schifrin, hier à l'âge de 93 ans. Enfin, avec notre invité, on se demandera si l'accord de paix qui doit être signé aujourd'hui entre la RDC et le Rwanda est susceptible de mettre fin à des décennies d'affrontements. Comment s'organiseront et avec quelle enveloppe budgétaire les prochains JO d'hiver de 2030, obtenus de manière assez inattendue par la France. François Bayrou réunit donc depuis ce matin à Briançon un comité interministériel consacré à l'événement. L'enveloppe globale dédiée sera d'autant plus scrutée que les finances publiques sont au plus mal et que la première estimation des dépenses publiques liées aux Jeux d'été l'an dernier ressort à 6 milliards d'euros. Or, structurellement, les JO d'hiver sont, on le sait, plus exposés à un déficit. Et puis le volet environnemental sera lui aussi regardé sans doute de près par les habitants de ces territoires de montagne où le réchauffement climatique est aujourd'hui deux fois plus rapide que la moyenne. Magali Homo, bonjour.
Bonjour à tous.
Le comité interministériel va donc fixer ses objectifs aux administrations et plus encore orienter leurs actions pour faire en sorte, Magali, que les chantiers soient bien délivrés à temps.
Oui, sur la pile de dossiers, les transports, l'État, la région PACA et le département des Hautes-Alpes vont mobiliser plus de 350 millions d'euros supplémentaires pour le ferroviaire. Il s'agit notamment d'améliorer la desserte du Briançonnais depuis Aix-Marseille, pour également le routier, avec la rénovation de la RN94 et d'un certain nombre de départementales. Le comité doit également gérer les dépenses, hein, c'est le nerf de la guerre, vous l'avez dit, l'État et les deux régions sont les deux financeurs publics de ce projet. Ils contribuent au budget du comité d'organisation évalué à 2 milliards d'euros, une répartition à 50-50. L'idée, c'est qu'ils s'organisent collectivement pour gérer ces jeux à l'euro près. Autre défi, c'est la protection de l'environnement et des écosystèmes sensibles de la montagne. Le comité doit lancer une feuille de route qui doit encore être détaillée. Ce sera d'ailleurs un des héritages de ces jeux d'hiver. Il y aura aussi les retombées économiques, le tourisme, les nouveaux logements se construits pour les athlètes et qui resteront après, sans oublier l'inclusion avec notamment l'accessibilité aux stations de ski et puis l'héritage sportif. Le gouvernement vise 3 millions de sportifs supplémentaires à l'horizon 2030. L'accent sera mis aussi sur la jeunesse, l'objectif étant de multiplier les classes de sport-études de 16 000 à 25 000 élèves.
Merci Magali Homo. François Bayrou a tenté hier de reprendre la main sur le dossier des retraites, actant même des avancées entre syndicats et patronats, une manière de sauver ce qui pouvait l'être de la concertation entre partenaires sociaux, dont beaucoup avaient cru comprendre qu'elle s'était soldée par un échec, à moins qu'il ne s'agisse de sauver sa propre tête. À Matignon, le Premier ministre s'est également engagé à porter et surtout reporter le dossier à l'automne prochain. La gauche dénonce une tentative d'enfumage pour gagner du temps. Pour autant, le chef du gouvernement devrait a priori survivre à la motion de censure déposée par les socialistes qui, sans l'appui des élus du RN, n'a aucune chance d'aboutir. En attendant, la suite des négociations que le Premier ministre appelle donc de ses voeux n'est pas encore garantie. Pour la numéro 1 de la CFDT, c'est non. Les autres organisations syndicales n'ont toujours pas dit si elles y étaient disposées. Et côté patronat, cette fois-ci, on promet certes de faire ses meilleurs efforts, tout en relevant que sur les deux sujets qui restent sur la table, pénibilité et équilibre financier, on est très loin d'être proche d'un quelconque accord. Les précisions de Marie Vino.
C'est la prudence qui domine côté partenaires sociaux. Personne ne veut torpiller à l'avance la prolongation des négociations, mais on comprend aux déclarations des uns et des autres que le Premier ministre est un peu trop optimiste quand il se dit persuadé, je le cite, qu'un chemin existe. Sur la pénibilité, patronat et syndicats sont sur deux idées complètement différentes, considère la CPME, Pénibilité et équilibre financier, c'est le cœur du problème, abonde le négociateur de la CFDT, et non donc des points seconds et faciles à traiter, comme les a qualifiés François Bayrou. À quoi bon se redire nos désaccords, s'interroge la CFTC, qui décidera lundi en réunion s'il y a lieu de s'associer à la prolongation des négociations. L'hésitation est d'autant plus forte après les propos du Premier ministre au tout début de sa conférence de presse, Pascale Coton, négociatrice pour la CFTC.
On a été très surpris qu'il commence sa conférence par la phrase « Les organisations syndicales et patronales se sont entendues sur les 64 ans ». On ne s'est pas du tout entendu sur les 64 ans. Les militants se posent la question pourquoi est-ce que cette phrase est venue en préambule, or que nous avons toujours en interne défendu le fait que non, nous n'irons pas au conclave pour valider les 64 ans.
Mettre les confédérations syndicales en difficulté face à leur base, était-ce le meilleur moyen de les inciter à revenir à la table des négociations ? Négociations dont le Premier ministre promet que cette fois, si elles n'aboutissent pas, c'est le gouvernement qui tranchera à l'occasion de l'examen à la rentrée du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, projet sur lequel l'éphémère gouvernement Barnier était justement tombé l'an passé.
Après plus de 240 années d'existence, l'école supérieure d'art de Valenciennes fermera définitivement ses portes aujourd'hui. Alors cela fait longtemps déjà que, faute de solidité financière, l'établissement était vu comme un bateau à la dérive, une situation qui s'est aggravée avec la réduction des subventions de ses membres fondateurs, la mairie, l'agglomération, le ministère de la Culture. Une disparition qui inquiète, alors même, Chloé Geffroy, que de plus en plus d'écoles d'art territoriales voient aujourd'hui leur coût de fonctionnement augmenter, mais pas leur budget.
Il n'y aura pas de promotion 2026 à l'école d'art supérieur de Valenciennes. L'établissement, qui ne prenait plus de nouveaux étudiants depuis déjà 2 ans, a distribué ses derniers diplômes. Stéphane Douernicki, le directeur, se sent aujourd'hui lâché par la municipalité d'hiver droite qui n'a par ailleurs pas souhaité communiquer.
La mairie s'étant retirée petit à petit, le fonctionnement d'un point de vue financier de l'école était très difficile. D'autant plus qu'en 2022, le prix du gaz a explosé, ce qui fait que tout le monde a dit l'école va le droit dans le mur.
Une école à l'agonie depuis des années. En 10 ans, les subventions sont passées d'1,2 million d'euros à 350 000 euros. Quant aux étudiants, ils se retrouvent privés d'un enseignement riche.
Et les écoles d'art, c'est des écoles qui forment beaucoup d'étudiants, qui travaillent dans des champs extrêmement divers et variés. Et on va réduire ce champ-là. C'est terrible.
Chaque année, 8 400 personnes sont scolarisées dans les 33 écoles d'art territoriales en France. Un modèle censé décentraliser et démocratiser l'accès aux métiers d'art, mais qui est désormais plus que jamais menacée. Florian Guettet, co-secrétaire national du syndicat des écoles d'art territoriales.
On craint un effet domino et on voit de partout, de toute façon, un effondrement du soutien des tutelles, que ce soit financier ou même un engagement presque moral pour ces écoles, avec des fermetures de filières, avec des réductions budgétaires, notamment à Toulouse, hein, où le personnel sont en grève depuis des mois pour lutter contre une baisse de subvention de près de 500 000 euros.
Le syndicat demande un geste fort de la part du ministère de la Culture. En mars dernier, Rachida Dati envisageait la fermeture de certaines écoles. Sa prédécesseure avait, quant à elle, accordé une aide d'urgence de 2 millions d'euros à ces établissements.
Comme attendu, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé ce matin la liquidation judiciaire de l'enseigne de magasins d'ameublement Casa, qui emploie près de 700 personnes en France. L'an dernier, le groupe avait déjà fermé ou vendu plus de 10% de ses magasins en Europe dans le cadre d'un plan de relance destiné à renouer avec la rentabilité en 2026. Le ministre de la Santé a dévoilé ce matin la cartographie des 151 zones qui, dès la rentrée prochaine, bénéficieront du soutien de médecins généralistes jusqu'à 2 jours par mois et sur la base du volontariat pour espérer lutter contre les déserts médicaux. La niche parlementaire du groupe UDR aura tourné court. Hier à l'Assemblée, les députés ciottistes alliés du Rassemblement National n'ont pas réussi à faire approuver ni même voter un seul de leurs textes, en particulier une proposition de loi controversée qui visait à interdire le mariage aux étrangers en situation irrégulière. Le fragile cessez-le-feu entre l'Iran et Israël reste toujours en vigueur. Ce matin, en revanche, hier, le régime des mollahs affirmait qu'aucun plan n'existait encore pour une reprise des négociations sur le nucléaire avec les États-Unis, contrairement donc à ce qu'avait annoncé la veille Donald Trump. Quoi qu'il en soit, et durant ces 12 jours de conflit au cours desquels tous les regards aux presques étaient arrivés sur l'État hébreu et la République islamique, le massacre de masse comme les destructions sans oublier, la famine organisée de la population assiégée dans la bande de Gaza dévastée par plus de 20 mois de guerre ne se sont pas pour autant arrêtés. De même, les distributions de nourriture donnent lieu quasi quotidiennement à des scènes de chaos, voire des pièges mortels. Encore 65 personnes tuées hier. Reste à savoir si le succès revendiqué de son action contre l'Iran pourrait accentuer la pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou afin qu'il négocie un accord en vue d'une trêve et de la libération des derniers otages du Hamas. Cela fait plus de 30 ans maintenant que l'Est de la République démocratique du Congo, à la frontière avec le Rwanda, est connu notamment pour ses ressources naturelles et pris pour cible, avec pour conséquence des millions de morts et de déplacés. Or aujourd'hui, la RDC et le Rwanda doivent signer un accord de paix sous la médiation des États-Unis. Avec quelle chance de mettre fin définitivement à des décennies d'affrontements entre le géant d'Afrique centrale et son petit voisin, pour le savoir. Invité de la rédaction aujourd'hui, Thierry Vircoulon, coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et orientale à l'IFRI. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Depuis 2021, une demi-douzaine de cessez-le-feu et de trêves ont déjà été signés en vain. En quoi cet accord de paix, plus qu'un autre, pourrait-il signer la fin du conflit ?
Cet accord de paix est différent des autres qui sont nombreux et qui ont été signés, comme vous le rappeliez, parce que il implique désormais les États-Unis comme principal médiateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et ça, c'est la grande nouveauté, puisque auparavant, les États-Unis s'étaient jamais impliqués à ce niveau.
Que contient précisément cet accord ?
L'accord qui va être signé aujourd'hui prévoit très classiquement que l'armée rwandaise se retire du Nord Kivu et que l'armée congolaise neutralise même des opérations contre un groupe armé anti-rwandais qui s'appelle les FDLR dans l'est du Congo. C'est en fait le premier étage de la fusée, parce qu'il va y en avoir d'autres. Ce qu'on annonce, les États-Unis annoncent qu'il y aura un autre accord à la fin du mois de juillet qui lui portera sur les questions économiques, de coopération économique entre les deux pays et d'investissement des États-Unis au Rwanda et en RDC. Donc là, c'est d'abord l'accord en quelque sorte sécuritaire avant un accord économique qui doit être signé en juillet.
On a souvent souligné les enjeux multiples qui sous-tendent ce conflit, la guerre économique, un conflit mémoriel. Quels sont les défis majeurs auxquels cet accord devra se saisir pour tenter de stabiliser donc définitivement l'Est de la RDC ?
Cet accord a en fait trois faiblesses. La première faiblesse, c'est le manque de la mauvaise foi des signataires. Comme vous le rappeliez, il y a eu beaucoup d'accords par le passé qui n'ont pas été appliqués. Donc la crédibilité de la signature rwandaise et congolaise est évidemment sujette à caution. La deuxième faiblesse, c'est la question du M23 qui est le groupe armé qui sert de paravent à Kigali, au nord et au sud Kivu. Son avenir reste avec un point d'interrogation, puisque il y a normalement des négociations. Il doit y avoir des négociations entre le gouvernement congolais et le M23 pour voir ce que deviendra ce mouvement. Mais ces négociations, pour le moment, sont restées dans l'impasse. Donc là aussi, il y a encore un point d'interrogation sur le devenir de ce mouvement. Et puis le troisième élément d'incertitude, c'est comment l'élite du Kivu, qui est très impliquée dans l'économie minière, va prendre cet accord, puisque en règle générale, le gouvernement congolais a l'habitude de lui imposer ses choix, mais au niveau macro, si je puis dire, mais après, en ce qui concerne la mise en œuvre sur le terrain, c'est elle qui, évidemment, peut jouer un très grand rôle et peut bloquer ou saboter les choses. Donc, c'est les trois grandes faiblesses de cet accord, plus le fait évidemment que les crimes de guerre qui ont été commis et les violations des droits de l'homme qui ont été commis dans ce conflit qui a débuté à la fin 2021 ne sont évidemment pas pris en compte par les États-Unis, puisque les droits de l'homme sont évidemment la dernière préoccupation de l'administration Trump.
L'implication inédite des États-Unis justement dans cet accord marque malgré tout un tournant dans l'histoire déjà longue de ce conflit. Est-ce que la force diplomatique américaine est la seule à pouvoir résoudre ce conflit? Et puis, est-ce qu'en échange de cette main tendue, Washington va décrocher un accès privilégié aux minerais dans la région?
Alors oui, pour répondre à votre deuxième question, d'abord, c'est le but et c'est la raison de l'implication de Washington. C'est en effet de pouvoir sécuriser le contrôle des minerais de certains nombres de sites miniers dans l'est du Congo. C'est vrai que c'est le grand élément novateur, si je puis dire, de cette implication américaine. La question, c'est évidemment de savoir si c'est d'une part les investissements américains seront réellement au rendez-vous, parce qu'il faut que les sociétés américaines mordent à l'hameçon en quelque sorte, ou plutôt aient suffisamment de garanties pour investir dans cette zone. Et puis évidemment l'autre problème, comme je le disais, c'est comment est-ce que ces investissements seront accueillis par les élites locales qui en tout cas ont déjà exprimé le fait qu'elles n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce deal et qu'elles ne voulaient pas se retrouver spoliées par la décision du gouvernement congolais.
Une dernière question en quelques mots. On parle beaucoup ces derniers mois de l'impuissance à faire respecter le droit international. Ce conflit a fait, on l'a dit, des millions de morts et de déplacés face à cette crise humanitaire. Est-ce que le droit international reste encore un levier?
Sur les chiffres que vous nommez, je serai extrêmement prudent, mais il est clair que le droit international n'est pas du tout un levier. Comme je le disais, les États-Unis ne prennent pas du tout en compte les crimes de guerre qui ont été commis par le M23 dans leur processus de négociation. Tout ce qu'ils veulent, c'est en effet un accord sur le secteur minier avec le Rwanda et avec la RDC. Les morts, les déplacés, tout ça n'ont évidemment pour eux aucune espèce d'importance. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça risque d'être beaucoup plus compliqué qu'ils ne l'imaginent.
C'est bien compris. Merci Thierry Vircoulon de l'Observatoire donc de l'Afrique centrale et orientale à l'IFRI d'avoir répondu à notre invitation ce midi. Merci également à Aline Biette pour la préparation. Pianiste et arrangeur, visionnaire, le chef d'orchestre argentin à la modernité, intouchable Lalo Schifrin est décédé hier à l'âge de 93 ans. Pierre Repère, bonjour.
Bonjour.
Nominé 6 fois aux Oscars, récompensé par 2 Grammy Awards, Schifrin a travaillé sur plus de 100 films et séries. Et bien entendu, l'une de ses partitions les plus connues est aussi l'une des musiques les plus entêtantes de l'histoire du cinéma. Un thème reconnaissable entre tous et dont le motif répétitif et syncopé d'ailleurs est inspiré du code Morse de l'armée, dans lequel les lettres M et I, les initiales donc évidemment de Mission Impossible, consistent en 2 notes longues suivies de 2 notes courtes.
Oui, ce sont ces quelques notes qui ont valu à Lalo Schifrin une renommée durable et internationale, mais il serait dommage de réduire le compositeur argentin à cette bande originale quand le musicien compte à son actif plus de 250 compositions. Lalo Schifrin, né en 1932 à Buenos Aires, a en effet commencé à pratiquer très tôt la musique, notamment grâce à un père premier violon à l'Opéra National Argentin. À 21 ans, Lalo Schifrin est reçu au Conservatoire de Paris où il devient un disciple du compositeur Olivier Messiaen. C'est là en France qu'il commence sa carrière professionnelle comme pianiste de jazz et compositeur. Il vend des chansons à Eddie Barclay avant de retourner au pays. Là-bas, il compose son premier album « Rendez-vous dansant à Copacabana », travaille avec Dizzy Gillespie, mais commence surtout à composer pour le cinéma et déménage à Hollywood. Schifrin, c'est donc évidemment des musiques de série comme Mannix ou Starsky et Hutch, mais surtout quelques grands morceaux de l'histoire du cinéma pour les films Opération Dragon, L'Inspecteur Harry ou encore Mannix. Alors, quel était le secret de Lalo Schifrin pour créer ces musiques capables de marquer des générations? À l'écouter au micro de Marc-David Calvé sur France Musique en 2001, il travaillait à l'instinct.
Vous savez, je n'ai pas de théorie sur la musique de cinéma. Je n'ai pas de théorie parce qu'il n'y a pas de théorie que je vais faire. Je le fais par instinct. Mais l'instinct aussi peut-être vient de l'expérience, de la connaissance. Et des fois, je fais des exercices. Je vais des musées, je regarde un tableau et je dis, Qu'est-ce que c'est le son de ces tableaux ?
À partir de la fin des années 80, Chiffrine compose un peu moins pour des films et produit surtout des albums mêlant le classique et le jazz. En 2018, après avoir été nommé 6 fois pour l'Oscar de la meilleure musique de film, sans jamais l'obtenir, il avait finalement été récompensé d'un Oscar d'honneur. Il avait alors déclaré « Composer pour le cinéma a été une vie de joie et de créativité. Recevoir cet Oscar d'honneur est l'aboutissement d'un rêve, c'est une mission accomplie. »
Merci Pierre Ropper. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Ciel à peine voilé au nord, grand soleil au sud. Quant aux températures, elles seront comprises entre 20 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. En revanche, pas de journal à 18h en raison de la grève illimitée contre le projet de réforme de l'audiovisuel public qui sera examiné lundi à l'Assemblée.